Bonjour. Je vais effectivement vous parler aujourd'hui non pas de Horace, non pas de ça y est, voilà que j'ai perdu. Vous m'avez fait perdre tous les prénoms de la famille Vernet. Je vais vous parler de Joseph Vernet, puisque vous savez qu'il y a trois peintres qui ont ce nom, ce patronyme. Joseph Vernet, je vais vous en parler aujourd'hui. Karl Vernet, son fils, dont nous ne parlons pas, et son petit-fils Horace Vernet, c'est une dynastie picturale que celle des Vernet, c'est bien de Joseph dont nous allons parler maintenant. Alors, nous allons tout de suite, et peut-être qu'on peut éteindre une partie de la lumière, parce que autrement nous aurons du mal à voguer dans les ports de France. Je vais vous emmener sans attendre à Rome. Nous sommes à Rome en 1750 et vous voyez là une diapositive qui vous donne une idée de ce qu'est cette Rome du milieu du XVIIIe siècle. Et dans cette ville éternelle s'il en est, vit depuis quelque temps déjà un jeune homme français du nom de Joseph Vernet, dont vous voyez ici le portrait, par d'ailleurs l'un de ses compatriotes. Comme vous le saurez bientôt, Joseph Vernet est provençal, et vous voyez là un tableau dû à Pierre Subleyras, qui est également un artiste provençal vivant à Rome à cette période. Joseph Vernet, qui vit à Rome au milieu du XVIIIe siècle, est donc ce jeune homme que vous voyez là. En 1750, Joseph Vernet est déjà à Rome depuis quelque temps, nous allons le voir. Et en cette bonne année 1750, Joseph Vernet reçoit dans son atelier la visite du personnage que vous voyez ici. Ce personnage est un homme important. Il s'appelle Abel-François Poisson de Vendières. Et ce nom, du moins une partie de ce nom, Poisson, vous dit à quelle famille il appartient. En fait, Abel-François Poisson est le frère de Madame de Pompadour. Donc vous savez que c'est là le patronyme. Madame de Pompadour a l'importance que vous savez auprès du roi et donc à la cour de France, et son frère ici présent va bientôt devenir également un personnage important. D'ailleurs, sous peu, il deviendra le marquis de Marigny. Et dans un an, je vous rappelle qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes à Rome en 1750. Mais en 1751, Monsieur Poisson de Vendières de Marigny deviendra le directeur des bâtiments du roi. Vous savez que les rois de France, depuis Louis XIV, ont auprès d'eux un directeur des bâtiments du roi, qui est une sorte de ministre de la culture, pourrait-on dire aujourd'hui. Eh bien, il se trouve qu'au milieu du XVIIIe siècle, le directeur des bâtiments du roi s'appelle Nenormand de Tournehin, mais en cette année 1750, il est au plus mal. On pense que bientôt quelqu'un doit lui succéder. Ce sera d'ailleurs le cas dès 1751. Ce quelqu'un est déjà choisi, c'est Abel-François Poisson de Vendières, qui donc deviendra le titulaire de cette charge importante. Et si le marquis de Vendières, le marquis de Marigny, si vous préférez, dont vous voyez ici l'effigie, est de passage à Rome, c'est que dans la mission qui sera la sienne un an plus tard, il est important qu'il connaisse la scène artistique européenne du temps. Et la scène artistique européenne du XVIIIe siècle passe évidemment par Rome, qui est le lieu incontournable de la culture artistique du temps. Et d'ailleurs, à Rome se trouvent de très nombreux artistes européens et notamment français. Poisson de Vendières, marquis de Marigny, se doit d'aller à Rome pour toutes ces raisons bien nécessaires. Et il se trouve qu'à Rome, le marquis de Marigny, appelons-le comme ça, va aller voir les ateliers des jeunes peintres français qui résident dans la cité éternelle à cette période, et il passe donc par l'atelier de Joseph Vernet, dont nous venons de voir la frimousse il y a un instant. Au moment où le marquis de Marigny, je l'appellerai désormais comme ça pour aller plus vite, passe dans l'atelier de Joseph Vernet, il découvre cette grande toile qui est aujourd'hui à la National Gallery de Londres, que Vernet est en train de peindre et qui représente des joutes sur le Tibre à Rome. Ce tableau, qui date donc de 1750, est en cours de réalisation au moment où Marigny va dans l'atelier de Vernet. Chose amusante d'ailleurs, dans ce tableau, voilà, vous voyez là, en bas à droite, que Vernet s'est représenté. Ce personnage que vous voyez là, c'est Joseph Vernet lui-même, qui s'est autoportraituré dans ce tableau avec son épouse, qui est d'ailleurs une Irlandaise, avec qui il a convolé il y a déjà quelques années. Derrière, ce petit bonhomme que vous voyez là, c'est le fils Vernet, avec sa nounou, n'est-ce pas, toute proche. Vous voyez que José Vernet s'est intégré à ce tableau. Et ce tableau plaît beaucoup au marquis de Marigny, qui, je vous le rappelle, est destiné un an après à devenir le ministre de la Culture. C'est dire que pour Joseph Vernet, avoir Marigny chez lui et lui montrer cette œuvre qui a le bonheur de lui plaire, c'est d'avoir auprès de lui un personnage qui pourra peut-être jouer un grand rôle dans sa carrière. Et d'ailleurs, ce sera le cas, nous y reviendrons. Alors, maintenant que nous avons fait cette entrée en matière en nous plongeant dans la Rome du milieu du XVIIIe siècle, essayons de voir quel est le, pour parler bien français, le background de Joseph Vernet à Rome. Parce que Joseph Vernet, ce jeune artiste dans l'atelier duquel nous venons de pénétrer, est en fait à Rome depuis quelque temps déjà. C'est en 1734, en effet, que Joseph Vernet est arrivé en Italie. Joseph Vernet est un Avignonnais, il est provençal, il est donc né à Avignon. Son père était d'ailleurs un peintre décorateur, ce qui fait que très tôt, Vernet, à Avignon ou bien dans d'autres villes de la région, par exemple à Aix-en-Provence, va être amené à réaliser toute une série de décors pour des hôtels particuliers. Par exemple, dans l'hôtel de Simiane à Aix-en-Provence, Joseph Vernet et son père réaliseront toute une série de décors. Hélas, je n'ai pas de photographie des décors réalisés à l'hôtel de Simiane, dont je vous montre ici simplement le porche d'entrée. En tout cas, c'est en 1734, alors que Joseph Vernet a 20 ans tout juste, qu'il décide de partir à Rome, tout simplement parce que un riche protecteur avignonnais, le marquis de Caumont, décide, voyant les talents du jeune Joseph Vernet, de l'envoyer à Rome à ses frais. Et le marquis de Caumont demande à Joseph Vernet de dessiner pour lui à Rome toute une série de statues d'après l'Antique. Vous avez là une vue de Rome à l'extrême fin du XVIIe siècle, mais quelques décennies plus tard, au début du XVIIIe siècle, cette Rome que découvre Joseph Vernet a grosso modo la même allure, et voilà l'ambiance dans laquelle divague notre jeune auteur, qui d'ailleurs, bientôt, plutôt que de simplement s'adonner à la simple copie par le dessin de la statue antique, ce que lui a demandé son protecteur, le marquis de Caumont, bientôt Vernet va aller un peu dans d'autres directions, et il va bien entendu aller visiter les artistes, et notamment les artistes français, qui habitent alors dans la capitale. L'un des artistes français qui habite à Rome à l'époque, c'est Adrien Manglard, dont vous voyez ici une œuvre. Adrien Manglard est né à Lyon, mais il a vécu une grande partie de sa vie à Rome, où il est décédé. Et Adrien Manglard est un artiste qui s'est spécialisé dans les vues de rivage et de port. Ce type de sujet intéressera bientôt beaucoup Joseph Vernet. On peut comprendre que cette proximité avec Manglard ait beaucoup intéressé notre jeune artiste. Vernet va également faire la connaissance d'un autre personnage important dans la Rome du temps, qui est, et vous en voyez ici le portrait par Antoine Pelln, qui est Nicolas Vleughels. Nicolas Vleughels est un personnage incontournable pour les jeunes artistes français du temps à Rome, parce qu'il est le directeur de l'Académie de France à Rome. Vous savez qu'il y a, depuis déjà plusieurs décennies à Rome, une sorte d'école française de Rome, l'Académie de France à Rome, qui est un lieu où sont envoyés les jeunes artistes français pleins de talent qui viennent à Rome pour se former aux merveilles que la cité sait leur réserver. Eh bien, le directeur de l'Académie de France à Rome, c'est à cette époque Nicolas Vleughels, que vous voyez là, qui est très content de voir Vernet arriver, parce que Vernet est un paysagiste et qu'il se trouve qu'à l'époque, il n'y a quasiment aucun paysagiste français à l'Académie de France à Rome. C'est un genre artistique qui, à l'époque, est pas très en vogue, il est un peu au creux de la vague. Alors, Vleughels est très content de voir Joseph Vernet arriver pour redorer, en quelque sorte, le blason du paysage. Et puis, une troisième personne que Vernet va connaître à Rome, eh bien, c'est Pierre Subleyras. Vous le connaissez déjà, puisque nous avons vu tout à l'heure le portrait de Joseph Vernet par Pierre Subleyras, Donc vous voyez ici l'autoportrait. Et si Subleyras et Vernet se voient volontiers et s'entendent fort bien, c'est parce qu'ils sont, comme on dirait ici, des pays. Ils viennent de la même région de France. Ils sont provençaux. Vernet est d'Avignon, lui, Subleyras, est de Saint-Gilles-du-Gard. Les deux personnages, n'est-ce pas, se fréquentent donc très volontiers. Ben, vous avez compris, quand Vernet arrive à Rome à partir de 1734, il est très vite introduit dans la société française romaine, mais également chez les Romains eux-mêmes. Après tout, Avignon, pour les Romains, cela sonne d'une manière particulière. Je vous rappelle quand même qu'au Moyen-Âge, il y a eu deux papes en Occident, l'un à Rome, l'autre à Avignon. Cette proximité papale fait qu'Avignon est regardée par les Romains, pas forcément comme une ville concurrente, mais comme une ville un peu double, qui fait qu'un Avignonnais est vu d'une manière un peu spéciale. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à Rome, Joseph Vernet découvre quantité de peintres du XVIIe siècle, qu'il a évidemment tout le loisir de découvrir, et il se trouve que beaucoup de ces peintres sont justement des paysagistes, le genre même qui est le sien. Par exemple, à Rome, Joseph Vernet a l'occasion de voir énormément d'œuvres de ce fameux Claude Gelée, que l'on appelle volontiers plutôt le Lorrain, du nom de sa province natale. Et vous savez que Claude Gelée a passé la majeure partie de sa vie à Rome, et les collections romaines regorgent de tableaux de cet artiste, qui représentent très souvent d'ailleurs, comme ici, des rivages, ici en l'occurrence, avec un enlèvement d'Europe. Mais Vernet voit également d'autres artistes, d'autres œuvres, d'autres artistes du grand siècle, du XVIIe siècle français, notamment Gaspard Duguet. Gaspard Duguet est un personnage important parce qu'il est le gendre de Nicolas Poussin. Et Gaspard Duguet est un des grands paysagistes qui s'est illustré à Rome. Il est français, mais a vécu quasiment toute sa vie à Rome. Et donc, beaucoup d'œuvres de lui sont visibles. Ce sont des paysages qui ne manquent pas, bien sûr, d'intéresser notre jeune artiste. Et puis, à côté de ces paysagistes français établis à Rome, au XVIIe siècle, il est aussi des artistes italiens qui ont travaillé dans le domaine du paysage, le domaine fétiche de Joseph Vernet, et notamment Salvatore Rosa, dont vous voyez ici une œuvre, autre artiste très important qui féconde l'inspiration de Joseph Vernet. Donc, vous voyez que Joseph Vernet, à peine arrivé à Rome, est accueilli volontiers par la communauté française. Il est très gourmand de toutes ses collections regorgeant d'œuvres d'art et notamment de peintures de paysages telles que celles que je viens de vous montrer. Bref, Vernet est très vite à Rome comme un poisson dans l'eau. Notez d'ailleurs qu'il voit également à Rome d'assez nombreuses œuvres réalisées par des artistes nordiques en Italie. Après tout, Rome n'est pas qu'un lieu où vont les Français. Les artistes hollandais, flamands vont également à Rome pour découvrir l'Italie et pour réaliser à leur tour de nombreux paysages. Voilà par exemple une des barques sur les rivages, tableau de Pinacker, un des grands artistes hollandais du XVIIe siècle qui a passé une partie de sa vie à Rome, tout comme Bonaventura Peters par exemple, tous artistes qui représentent des paysages, mais très souvent, et ça ne manque pas d'intéresser Vernet, des scènes de rivage, des scènes de port. Joseph Vernet est si à son aise à Rome et en Italie que bientôt il est vraiment intégré, j'allais dire, au Gotha romain et pictural. C'est si vrai que l'un des Romains les plus en vue du temps, qui s'appelle Pierre Leone Ghezzi, qui est un caricaturiste célèbre. La caricature est un vieillard en Occident, hein. On ne le découvre pas ces jours-ci, hein. C'est un art traditionnel d'Europe occidentale. Eh bien, Pierre Leone Ghezzi, en 1739, réalise une caricature de Joseph Vernet, V-E-R-N-E, comme vous le voyez, n'est-ce pas, ici, sur l'inscription qui est en bas, à gauche, de ce dessin, ce qui montre bien vraiment que pour Ghezzi, ce Vernet, ce Francese, c'est une sorte de français, certes, mais qui fait désormais partie, je dirais, de la scène romaine, picturale, si bien d'ailleurs que, non seulement Vernet est adoubé par cette caricature, mais on le fait également rentrer en 1743 à l'Académie de Saint-Luc. L'Académie de Saint-Luc, c'est un peu une sorte d'Académie des Beaux-Arts française, mais en Italie. Entrer à l'Académie de Saint-Luc italienne, n'est-ce pas ? C'est vraiment une manière d'être reconnu par ses pairs italiens. Belle reconnaissance pour notre personnage. Notez que Vernet, qui décidément et le plus italien des artistes français en Italie, est également très volontiers visité par les touristes anglais. Vous savez que les Anglais passent volontiers en Italie. Quand on est un aristocrate anglais et qu'on a quelque argent, il faut au cours de sa vie faire le grand tour. Le grand tour, c'est essentiellement aller en Italie. Et quand on fait le grand tour, on doit ramener de son grand tour des œuvres d'art venant d'Italie. Quelques antiques, c'est toujours bien vu, mais quelques peintures aussi. Un lord anglais qui va en Italie se fait tirer le portrait. Pompeo Battoni, dont vous voyez ici une œuvre, est un des meilleurs portraitistes établis à Rome au XVIIIe siècle, qui brosse les portraits des lords anglais et qui, après leur grand tour, ramène dans leur château anglais, écossais, que sais-je encore, n'est-ce pas, ces images qui, dans les froideurs de l'hiver, leur rappellent leur grand tour ensoleillé. Pompeo Battoni fait vraiment partie, pour les Anglais, des gens qu'il faut aller voir à Rome. Tout comme d'ailleurs Giovanni Paolo Pannini. Pannini est quelqu'un qui réalise des paysages, généralement tout encombrés de ruines romaines. Pannini, comme Battoni, c'est l'artiste que les Anglais visitent beaucoup pour ramener en Angleterre ses vues qui, j'allais dire, en un tableau, permettent d'évoquer toute l'Italie et qui, en Grande-Bretagne, leur rappelleront ce grand tour qu'ils ont réalisé. D'ailleurs, le fait que la femme de Vernet soit irlandaise, je vous le rappelle, facilite assez ces liens entre tous ces artistes, mais aussi Joseph Vernet et les touristes anglais. Parce que si les touristes anglais viennent voir Pompeo Battoni pour faire réaliser leurs portraits, viennent voir Panini pour emmener avec eux ces ruines romaines si à la mode, ils viennent voir aussi Claude-Joseph Vernet, qui est un paysagiste, n'est-ce pas, dont la femme est irlandaise et donc parle leur langue, ce qui fait que ces touristes anglais vont bientôt s'enticher de Joseph Vernet, lui passer des commandes. Vous voyez que, comme les artistes italiens vivant en Italie, cet artiste français qui s'est intégré à l'Italie va devenir à son tour la coqueluche des touristes britanniques. Voilà par exemple quatre tableaux réalisés par Joseph Vernet, un bord de mer au matin, un naufrage à midi, une scène de port le soir et un bord de mer la nuit. Quatre tableaux réalisés par Joseph Vernet pour un lord irlandais qui va emmener ces tableaux dans son château de Roseborough, où d'ailleurs il se trouve toujours. Vous voyez ici une vue du château de Roseborough en Irlande. Eh bien, si vous visitez le château, vous verrez en bas à gauche, dans une des salles à manger du dit château, vous les voyez encore sur le mur, n'est-ce pas, les tableaux commandés à Vernet et emmenés par lui de Rome à Roseborough par le lord dont je vous ai parlé. Vraiment, Vernet, vous le voyez, a beaucoup de succès dans cette Italie du milieu du XVIIIe siècle. Vernet, à cette période, depuis sa venue en Italie, a d'ailleurs beaucoup produit des marines. Le paysage, c'est son affaire, mais les marines sont vraiment sa spécialité. Ce sont souvent des marines, d'ailleurs, totalement inventées. Le paysage que vous voyez là est un paysage qui n'a pas un sou de réalité. Bien sûr, ce paysage s'inspire des côtes de l'Italie, mais ne représente pas une côte particulière. Vous avez là un paysage d'invention. Quelquefois, ces paysages d'invention sont tout de même un peu inspirés de la réalité. Par exemple, ici, vous voyez un paysage qui s'inspire Tivoli. Tivoli est une cité, une petite cité qui se trouve non loin de Rome, célèbre notamment par la Villa d'Este, par les ruines antiques. L'empereur Adrien avait installé là une énorme villa dont les ruines commencent à être dégagées au XVIIIe siècle. Il y a en plus des cascatelles à Tivoli. C'est un lieu tout à fait pittoresque. Eh bien ici, Joseph Vernet s'inspire de Tivoli et j'allais dire met la réalité tivolienne à sa sauce. Ce que vous voyez là, vous ne verrez jamais à Tivoli, c'est une invention de Joseph Vernet, mais le paysage du fond, n'est-ce pas, est très nettement inspiré de Tivoli. On voit donc que Joseph Vernet est capable soit de créer de toutes pièces des paysages, on vient de le voir, soit de s'inspirer de paysages réels pour les transmuer et en faire quelque chose qui est à la fois réel et à la fois tout à fait inventé. Et puis à côté de ça, Vernet est aussi capable de réaliser des paysages tout à fait, entre guillemets, réalistes. C'est le cas de ce tableau qui représente le château et le pont Saint-Ange à Rome. C'est encore le cas de cet autre tableau qui représente le Ponte Rotto à Rome, qui sont là non pas du tout des paysages inventés, non pas du tout des paysages qui s'inspirent un peu de la réalité, mais des paysages qui vraiment, si j'ose dire, recopient la réalité romaine. On a là une sorte de portrait de certains points de vue de Rome. Et ce qui est intéressant, vous l'aurez remarqué dans les deux tableaux, c'est que Vernet, à chaque fois, ici, on le voit bien en premier plan, là aussi d'ailleurs, intègre dans ce tableau des personnages, mais des personnages qui ne sont pas forcément des figures de convention, simplement là pour donner une échelle. Ces personnages sont là aussi pour montrer les véritables petits métiers qui se développent au bord de l'eau, et ça, c'est un point que nous verrons se développer chez Vernet. Et puis on voit, toujours dans cette période, 1740, 1745, 1750, alors que Vernet s'implante encore une fois à Rome, qu'il va être également capable, non seulement de voyager en Italie, il va à Naples par exemple, mais de réaliser également de grands paysages panoramiques montrant des vastes portraits horizontaux de certains sites italiens. Vous voyez ici deux grands tableaux représentant la baie de Naples, des tableaux qui ne représentent pas, n'est-ce pas, une petite portion de rivage, mais vraiment une sorte de grand panorama d'une cité. Voilà un troisième paysage tout à fait du même genre, montrant la capacité remarquable de Vernet à réaliser des panoramiques. Tout cela, évidemment, intéresse beaucoup les Italiens du temps, les touristes anglais, et bien sûr notre monsieur de Marigny qui visite l'atelier de Vernet en 1750 et qui découvre toutes ces merveilles. Notez aussi que Vernet s'intéresse beaucoup dans ses paysages à ce que j'appellerais l'ambiance, l'atmosphère. Vous le voyez ici. Voilà ici un tableau de Vernet qui représente un port de mer à midi et qui s'appelle Le Calme. Vous voyez comment la lumière un peu diaprée du fait des nuages installe une ambiance particulière que l'on retrouvera ici dans ce tableau Tempête le soir, où là la mer est déchaînée, où l'orage est en pleine action. J'allais dire l'ambiance, la personnalité des paysages, la pluie, le brouillard, le beau temps, le soleil, la tempête ou le calme, voici des perturbations qui intéressent Vernet dans des tableaux que souvent il réalise en pendant. Le tableau que vous voyez là, et vous l'aurez compris, le pendant de celui-ci. Réaliser non pas des tableaux indépendants, mais des tableaux qui se répondent, 2 à 2, 4 à 4, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ça c'est une chose que réalise volontiers Joseph Vernet. Joseph Vernet qui est également capable, dans les ambiances qu'il donne à ses tableaux, de, j'allais dire, les rendre très paisibles, comme vous le voyez dans cette partie de plaisir, ou bien dans des tableaux, cette fois plus terriens, comme cette vigne Pamphilia Rome ou ces jardins Ludovisi à Rome, qui vous montrent un artiste qui n'est pas simplement, si vous me permettez l'expression, scotché sur les bords de mer, mais qui est capable aussi d'aller un peu dans les terres et de réaliser des scènes telles que celle-ci, où, comme vous le voyez, la figure qui donne du sens au paysage a toute son importance. Notez que ce côté réaliste, cette volonté de Joseph Vernet de faire des paysages tirés de la réalité, dont nous avons vu que ça constituait une des grandes parts de ses travaux, cet intérêt pour le réalisme, il se voit aussi, si j'ose dire, dans la légende de Joseph Vernet. Vous avez ici un tableau de Horace Vernet, le petit-fils de Joseph Vernet. Hein, je vous ai parlé en introduction de cette dynastie picturale. Eh bien, dans la famille Vernet, on dit que Joseph Vernet, qui nous intéresse aujourd'hui, était tellement intéressé à la réalité des paysages qu'un jour, il a demandé pour comprendre ce qu'était vraiment une tempête. Lui qui n'arrête pas, nous venons de le voir, de peindre des tempêtes. Il voulait voir à quoi ressemblait des visus, si vous voulez, une tempête. Alors, pour ce faire, il a demandé un jour qu'on l'amène dans une tempête, et puisque évidemment dans une tempête un bateau bouge toujours, il s'est fait carrément lier, n'est-ce pas, attaché à un mât, n'est-ce pas. C'est ce que vous voyez dans ce tableau de son petit-fils Horace Vernet. Vous voyez Joseph Vernet attaché à un mât dans un bateau au milieu d'une tempête. Ainsi il peut étudier les effets de la tempête sur ses propres tableaux. Vous voyez donc que cette légende, qui a peut-être un fond de réalité, est intéressante parce qu'elle nous montre comment Vernet est un artiste qui, face au paysage, a certes une capacité d'invention, mais également une capacité à, j'allais dire, s'intéresser à la réalité et à la réalité au plus près. Ce qui intéresse Vernet, on le voit via cette légende, c'est véritablement de comprendre le fond, la réalité des choses. Voilà donc cet artiste, rapidement brossé, que découvre en 1750 le marquis de Marigny à Rome. Alors, Notre Vernet, et c'est le deuxième chapitre que nous allons aborder, va bientôt être approché à nouveau par Marigny pour réaliser une série très importante. En effet, le marquis de Marigny, dont nous venons de parler, va bientôt commander à Joseph Vernet, dont vous voyez ici le portrait esquissé par Maurice Quentin de la Tour, un des grands portraitistes pastellistes du temps. Bientôt donc, Joseph Vernet va se voir approché à nouveau par le marquis de Marigny, qui maintenant, n'est-ce pas, est devenu directeur des bâtiments du roi. Et en 1753, le directeur des bâtiments du roi, le marquis de Marigny, le frère de Madame de Pompadour, commande à Joseph Vernet une série d'une vingtaine de tableaux qui ont pour but d'illustrer les ports de France. Marigny a pu voir dans l'atelier de Joseph Vernet que Vernet était un paysagiste, qu'il s'intéressait beaucoup aux ports, à la mer, aux rivages, et qu'il était capable de faire ces grandes vues panoramiques dont nous avons vu des exemples napolitains. Et cette capacité de cet artiste à réaliser de tels tableaux va beaucoup intéresser le marquis de Marigny, qui essaie, depuis son arrivée aux Beaux-Arts en 1751, de redonner un peu à la peinture française ses lettres de noblesse. La peinture française s'encombre beaucoup à l'époque, trouve Marigny, d'artistes un peu superficiels, notamment de ce François Boucher qui aligne les nymphettes dénudées dans des sous-bois un peu rosâtres, n'est-ce pas ? Et cela ne plaît pas trop au marquis de Marigny, qui voudrait donner à la peinture française une allure plus noble et plus heureuse. Alors Joseph Vernet tombe à pic. Et Marigny a un projet pour Vernet. La France, qui en ce milieu du XVIIIe siècle est en plein équipement, vous savez que Louis XV est quelqu'un qui, par exemple, va faire un réseau routier remarquable en France, eh bien la France a également une série de ports importants. Il est temps peut-être de chanter ces ports et de montrer port P-O-R-T-S, nous entendons bien, hein. Il est donc bien temps pour Marigny d'essayer d'exalter ce réseau des ports de France. Voilà un grand et beau sujet, un peu plus sérieux que les nymphettes qui s'ébattent dans les sous-bois. Et Vernet est tout désigné pour réaliser une série sur ce thème. Et puisqu'il en est capable, pourquoi pas ? Alors Marigny va passer commande à Joseph Vernet de 20 tableaux, notons tout de suite qu'il n'en exécutera que 15, représentant les principaux ports français de Méditerranée ou de l'Atlantique et même de la Manche. Tous les tableaux seront horizontaux, tous feront 2,60 m de long sur 1,65 m de large. Vous voyez que la commande que reçoit Vernet n'est pas une petite commande de tableautin, hein. C'est 15 tableaux qui font 2,60 m par 1,65 m. Ça veut dire un gros travail, pour être clair. Et le marquis de Marigny demande à Vernet que ces tableaux rendent bien compte de la topographie précise des lieux, mais ça Vernet sait le faire, nous l'avons vu, mais également des activités de chacun de ces ports. Et nous avons vu comment Vernet était très sensible à montrer cette exactitude-là, et bien cette dimension didactique est justement celle que Marigny demande à Vernet. Vernet, qui d'ailleurs reçoit une sorte de feuille de route, il devra se déplacer pour réaliser cette commande de Marseille jusqu'à Dieppe, et ce durant plusieurs années. Ce qui veut dire que Vernet, bientôt, dès 1753, va avec femme et enfant quitter Rome pour commencer un voyage qui va durer une vingtaine d'années pour mener à bien cette énorme commande. Alors regardons maintenant, rapidement, les 15 tableaux qui vont être réalisés par Vernet. Le premier tableau que réalise Vernet, c'est ce que vous voyez ici, l'entrée du port de Marseille. Vous reconnaissez, je pense, ici le port de Marseille, même s'il a un peu changé, n'est-ce pas, de nos jours, mais pas tant que ça. C'est ici une vue depuis le sud, c'est-à-dire ce que vous voyez absolument en face, au centre, c'est le vieux port de Marseille. Hein. Vous le reconnaissez, je pense. Hein. À gauche, vous remarquez le fort Saint-Jean et même la cathédrale. À droite, on voit le fort Saint-Nicolas, et puis également un autre fort, un peu plus loin, qui s'érige à la place de l'endroit où se trouve aujourd'hui Notre-Dame de la Garde. Et vous voyez que tableau nous montre dans la rade toute une série de bateaux qui vont des gros bâtiments jusqu'à des petits bateaux de pêche, ou des tableaux qui amènent des touristes, puisqu'au premier plan, nous voyons toute une série de gens qui viennent se faire amener en face du vieux port pour regarder à la fois le large, mais la ville de Marseille depuis, je dirais, l'extérieur, et on amène ces touristes par des petites embarcations. On voit bien décidément que Vernet est assez à son aise dans ce grand tableau pour montrer la réalité topographique, architecturale, mais également des bateaux. Hein. Les gens, les spécialistes des bateaux, regardent beaucoup Joseph Vernet. Ça n'est pas un hasard si, dans cette série des 15 ports de France, la plupart d'entre eux sont aujourd'hui au musée de la Marine à Paris. Quelques-uns ont atterri au musée du Louvre, mais la plupart sont au musée de la Marine, parce qu'on a là vraiment des œuvres dans lesquelles la dimension mariniste de Vernet et sa capacité à représenter des bateaux nous montrent un personnage capable vraiment de s'attacher, mais ça nous l'avons vu, au réel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Vernet va s'intéresser aux figures, aux personnages. Vous le voyez ici dans cette vue un peu rapprochée, n'est-ce pas ? Et vous voyez au premier plan notamment ce personnage avec une longue vue, n'est-ce pas ? Un de ces touristes amenés pour regarder l'horizon de sa longue vue. Mais vous voyez également ici au premier plan, je vous montre là un détail, n'est-ce pas ? Un petit groupe avec Joseph Vernet lui-même, qui s'est à nouveau autoportraituré, avec son fils, qui est ici, que nous avons vu d'ailleurs tout à l'heure, son épouse. Ah oui, son épouse est en train de lui désigner ce personnage qui est là. Et nous savons quel est ce personnage que Madame Vernet désigne à son mari Joseph et à Livio, leur jeune garçon. Ce personnage s'appelle Alibal Como. On sait, parce que Joseph Vernet a écrit son livre de vérité, son Liber Veritatis, une sorte de carnet de voyage où il consigne tout. Et il nous précise qu'à Marseille, il a rencontré un homme, ce fameux Annibal Como dont je vous parle, qui avait, dit-on, 117 ans, et qui, nous dit-il, se porte très bien, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est ce petit épisode de la vie quotidienne du peintre qui nous est ici rapporté. Voilà donc le premier tableau réalisé par Vernet, un tableau, vous le voyez, plein de détails, et qui va être suivi par un autre tableau figurant à nouveau le port de Marseille, mais cette fois, c'est la vue exactement inverse. C'est-à-dire que nous sommes là, exactement au fond du tableau précédent. Nous sommes au fond du Vieux-Port. Vous me suivez, je pense, hein ? Et voyez comment ici, on est au fond de la rade du Vieux-Port et on regarde l'horizon, celui-là même où on était tout à l'heure, il y a un instant. Alors, le Vieux-Port a un peu changé, hein, entre aujourd'hui et le 18e siècle, guerre oblige, hein, mais vous voyez très bien, n'est-ce pas, comment ici Joseph Vernet, à nouveau, s'intéresse à l'architecture, aux bâtiments architecturés, mais également aux navires. On reconnaît d'ailleurs le Fort Saint-Jean, la tour de la cathédrale, etc. Tout ce qui nous a déjà été présenté tout à l'heure. Et puis le petit peuple qui, n'est-ce pas, sur le port, est là, qui grouille. Vous y voyez des quantités de personnages, et notamment ces foules orientales qui croisent à Marseille. Marseille est évidemment un port qui est ouvert sur l'Orient. Et on y voit, vous le remarquez là, au centre du tableau, toute une foule bigarrée venant en particulier des rivages orientaux de la Méditerranée. Vous le voyez là à nouveau, n'est-ce pas, avec ces Turcs, par exemple, ou ces jeunes femmes sorties de je ne sais quel harem extrême oriental. Vous y voyez également des activités. Par exemple ici, vous voyez des scènes figurant le contrôle des ballots de laine. Vous voyez là un personnage qui dort sur des ballots. Ici, on est en train de marquer les ballots. Vous voyez qu'ici, des contrôleurs sont en train de faire le tri. Et puis, un peu plus loin, vous voyez un très beau couple, n'est-ce pas, qui est approché par quelque abbé, alors qu'à l'arrière, un mendiant tente de soutirer quelque argent. On voit bien comment Vernet est allé souvent sur le port pour pointer et tirer toute cette réalité qui l'intéresse et qu'il dispose à l'intérieur du port. Et bien entendu, les activités portuaires par elles-mêmes ne passent pas inaperçues. Vous voyez ici comment en haut, par exemple, ce sont là des détails du tableau précédent, on nous montre la réparation d'un bateau, ou comment en bas, on nous montre le département du grain. Hein. Le grain ici descend une sorte de toboggan, on met ici du grain dans des sacs que l'on emmène ensuite par des ballots. Il y a vraiment une dimension étude ethnographique hein, qui est tout à fait remarquable dans ces tableaux, qui servent aux historiens de l'art, mais également à beaucoup de gens qui travaillent aussi bien sur le commerce du vin que sur le commerce du grain, ou bien, encore une fois, de la laine, ou sur les bateaux. Vernet est un peintre qui s'intéresse à la réalité des ports. Le troisième tableau que réalise Vernet dans ce périple, c'est un tableau figurant Bandol. Tout simplement parce que Bandol, qui est un tout petit port, était au programme que Marigny a donné à Vernet. Et bien entendu, Vernet ne saurait s'écarter du programme. Le problème, c'est que Bandol, qui n'est pas aujourd'hui non plus d'ailleurs une métropole extravagante, n'est qu'un petit village, n'est-ce pas, au XVIIIe siècle. Alors peindre le port de Bandol, pour Marigny qui n'y a sans doute jamais mis les pieds, c'est peut-être possible, mais pour Vernet qui y débarque, c'est un peu difficile. Il n'y a pas grand-chose à montrer à Bandol, en clair. Alors Vernet décide de faire un tableau qui montrera Bandol non pas depuis la terre, mais depuis la mer. Tout simplement parce qu'à Bandol, il y a, au large de Bandol, une activité tout à fait étonnante, qui est celle de la pêche au thon. Bandol vit de cela. Alors, plutôt que de montrer un port où il ne se passe pas grand-chose et qui n'a pas bien de bâtiments remarquables, autant montrer l'activité qui se développe au large de Bandol, qui n'empêchera pas de voir quand même la petite cité. C'est ce que fait Vernet. D'ailleurs, il en parle, ou plutôt il l'écrit, à Marigny. Notez que Marigny ne sera pas trop d'accord. Et au départ, il résiste un peu. Quoi ? On a demandé à Vernet de faire les portraits des ports. Et pas d'aller sur la mer pour représenter les activités maritimes. Si activités maritimes il y a, il doit les représenter dans les ports, et pas depuis la mer. C'est pourtant ce que veut faire Vernet. Alors pendant un temps, Marigny et Vernet s'échangent des lettres, parfois un peu aigre-douce d'ailleurs. Finalement, Vernet va gagner, si j'ose dire. Il va représenter le port depuis la mer avec une pêche au thon. D'ailleurs, Marigny en sera très content quand il voit arriver, après le tableau terminé, l'œuvre à Paris. Il est tout à fait heureux, n'est-ce pas, du résultat. Et il estime que finalement, Vernet a eu tout à fait raison. En tout cas, ce que vous voyez dans ce tableau, et notamment au premier plan, c'est ceci, ce qu'on appelle la madrague. Alors, la madrague n'est pas simplement la propriété de Brigitte Bardot à Saint-Tropez, je vous le rappelle. Hein. La madrague, c'est aussi un dispositif nécessaire pour la pêche au thon, qui n'est pas très compliqué. La madrague est un système de pêche traditionnel au thon. Hein. C'est une sorte de couloir que l'on fait avec des filets, dans lequel les thons, le banc de thon, est censé arriver. Puis au fond de ce couloir, il y a une sorte de grand cirque de filets, qui fait que le banc de poissons arrive là, il ne peut pas en sortir, et c'est à ce moment-là qu'on va pêcher le thon, avec des sortes de gaffes, en quelque sorte. Et vous voyez là, sur la droite, n'est-ce pas, les pêcheurs qui sont au bord de ce cirque où sont emprisonnés les thons, et qui essaient de harponner les thons pour les amener dans leur barque. Et vous voyez aussi que cette pêche au thon fait partie des loisirs obligés de la belle société qui vient en Provence regarder les activités locales. Vous voyez que de jolis bateaux avec de belles dames viennent là, au large de Bandol, pour voir cette activité, on ne peut plus exotique. Et puisque Vernet est là pour nous montrer la réalité, eh bien il montre cela, n'est-ce pas ? Et vous voyez bien là, où là encore, les thons qui s'agitent à la surface, et tout autour, n'est-ce pas, de cette sorte de cirque maritime, les touristes qui viennent voir une activité si étrange et si mouvementée. Le port suivant que va réaliser Joseph Vernet est celui de Toulon. Mais Toulon, ça n'est pas n'importe quel port, c'est un port important, et en particulier sur le plan militaire. Alors, Toulon, Vernet va lui consacrer non pas un tableau, non pas deux tableaux, mais trois tableaux. La chose était possible. Marigny avait en effet laissé quand même, surtout depuis l'épisode de Bandol, la bride sur le cou à Vernet. Et donc, Vernet décide de réaliser trois vues de Toulon. Le port en vaut bien la peine, après tout. C'est à partir de 1754 que la famille Vernet, qui a déménagé de Marseille à Toulon, s'intéresse au port de Toulon pour réaliser d'abord ce premier tableau qui représente une vue du port neuf prise de l'angle du parc d'artillerie. C'est ici, en effet, le port neuf qui s'étale devant vous, sachant que derrière, là-bas, il y a le port vieux. Le port neuf, le voilà, hein, c'est la rade que vous voyez là. Mais derrière cette série de bateaux dont vous voyez les mâts, se trouve le port neuf. Et là, sur la gauche, vous ne le devinez pas très bien, mais il y a un petit canal qui permet d'aller du port neuf où nous sommes au port vieux qui est derrière, hein, et que nous verrons tout à l'heure, puisque Vernet a fait une sorte d'encyclopédie de ce port de Toulon. Le port neuf où nous sommes est le lieu de l'artillerie. D'ailleurs, vous devinez au premier plan qu'il y a des gens, notamment ici, qui transportent des boulets de canon. Hein. C'est par le port neuf que passent les bateaux qui veulent se charger en canons, en boulets. D'ailleurs, vous voyez ici, sur cette vue de détail, non seulement des officiers, n'est-ce pas, qui au premier plan discutent, mais des tas de boulets de canons, et les canons eux-mêmes, hein, qui montrent bien que nous sommes bien là, dans la cour de l'artillerie de ce port neuf. Le deuxième tableau figurant Toulon que va montrer, va réaliser Joseph Vernet, c'est celui-ci. Une vue de Toulon, mais cette fois vue de l'intérieur des terres. Hein. Une vue qui nous permet de voir à l'horizon la rade de Tourlon avec le port neuf, le port vieux, n'est-ce pas, mais vraiment de l'intérieur. Il nous fait monter sur une sorte de colline, le fameux mont Faron, n'est-ce pas, qui domine la ville de Toulon, et il nous amène là dans une sorte de jardin de quelques villas dominant la cité, qui nous permet décidément de plonger sur la ville et d'avoir cette vue panoramique sur l'ensemble du site. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, Vernet nous intéresse ici, non pas aux activités portuaires, mais aux activités qui se développent dans la villa, où un repas s'active. Vous devinez ici, sous une tonnelle, qu'une table est dressée. Vous voyez là, par cette allée montante, que des gens sont en train d'arriver à cheval. Ici, vous le voyez peut-être mal, mais ils sont en train, tant bien que mal, parce qu'il y a des gens un peu ventripotents qui ont du mal à descendre de leurs chevaux. Bref, on voit bien qu'on est en train de préparer je ne sais quelle collation à l'extérieur. Et puis, au premier plan, vous voyez également des chasseurs qui reviennent ici de la chasse avec leurs fusils et leurs chiens. Et même là, Provence oblige, des gens qui jouent aux boules, n'est-ce pas ? On voit bien comment Vernet, quand il sort des ports, garde dans cette série la même volonté d'essayer de montrer la réalité de la vie qui s'étale devant ses yeux. Et puis, bien entendu, troisième tableau portuaire de Vernet, qui, vous le voyez, nous présente ici une vue du vieux port, de la vieille darse, comme on l'appelle alors, prise du côté des magasins aux vivres. Le port neuf que nous avons vu tout à l'heure, il est derrière cette rangée de bateaux, il est par là. Là, nous sommes dans le port vieux, la vieille darse, qui est d'ailleurs longée, vous le voyez ici, par les quais de Toulon, qui aujourd'hui, vous le savez, ont totalement disparu, sauf l'ancienne mairie de Toulon, qui doit se situer, je crois, par ici, et qui est connu parce que c'est le seul bâtiment ancien qui reste aujourd'hui, n'est-ce pas, sur le port de Toulon, et dont d'ailleurs le balcon est supporté par deux atlantes très célèbres, dues à Puget, qui, vous le savez, le grand sculpteur de la Provence au XVIIe siècle. Alors, la vue que vous voyez là, qui est exactement totalement opposée à la première vue de Toulon, comme à son habitude, représente ici les activités de la vieille darse, qui sont soit des activités de maintenance des navires. Vous voyez d'ailleurs ici, dans le fond, une grue à mater, n'est-ce pas, à mater. Hein. Vous voyez qu'à côté sont là des bateaux, ici aussi, qui sont visiblement stockés, si j'ose dire, en cours de réparation. On comprend que la grue à mater soit ici. Mais vous voyez également au premier plan toute une série d'activités. On amène des vaches, des troupeaux. Il y a ici, dans l'ombre, tout un troupeau de bestioles, notamment de moutons et de brebis. C'est que c'est la cour des vivres, ici. Hein. C'est donc là que l'on amène les denrées qui vont être amenées à garnir, si j'ose dire, les bateaux et ces activités qui nous sont proposées. On voit également les prisonniers. Hein. Ici, par exemple, vous voyez des galériens qui sont amenés parce que les galères, et on en voit quelques-unes ici au bord du quai, font également partie du quotidien de ces ports, et Vernet, bien entendu, nous les détaille à son tour. Vous voyez que Vernet, encore et toujours, nous propose la vie de ce port de Marseille. Un peu plus loin, et Vernet va, en cette année 1756, se déplacer encore pour réaliser un nouveau port, qui est cette fois celui d'Antibes. Notez qu'entre-temps, précisément en 1755, Vernet et son épouse a fait un petit saut à Paris, parce qu'en 1755, au Salon, sont présentés un certain nombre des tableaux des ports qu'il a déjà réalisés, notamment les deux vues de Marseille. Les choses qui fera très plaisir à Vernet, et sans doute très plaisir à Marigny, les tableaux de Vernet présentés au Salon ont un succès fou, n'est-ce pas ? Les tableaux de Marseille et celui de Bandol sont extrêmement bien accueillis au Salon. Des gens comme Diderot, d'ailleurs, vont accueillir ces tableaux avec beaucoup d'enthousiasme. Vous savez que Vernet, Joseph Vernet, avec Greuze, du moins pour un temps, et Chardin, fait partie de la trilogie des trois peintres préférés par Diderot, n'est-ce pas ? Diderot va s'enthousiasmer pour Vernet. Alors, c'est tout ragaillardi, en quelque sorte, que Vernet va repartir de Paris pour retourner en Provence et à Antibes pour réaliser la vue que vous voyez là. On voyait que cette vue nous rappelle un peu la vue de Toulon de tout à l'heure, la deuxième. C'est-à-dire que ici, Vernet nous montre Antibes, non pas absolument au bord de l'eau, mais depuis une colline qui surplombe un peu la ville et qui permet de voir la cité, aussi bien d'ailleurs à gauche le fort, dit fort carré, que vous voyez là, que Notre-Dame de la Garoupe qui apparaît ici dans la ville elle-même. Bref, la cité d'Antique nous apparaît, avec, bien entendu, au premier plan, les petits métiers qui se développent, non loin de la cité. Vernet montre d'ailleurs ici, au premier plan, une sorte de convoi. C'est en fait un convoi militaire qui se dirige vers la cité et que Vernet propose de montrer sur la droite. Il nous montre également cette petite scène tout à fait pittoresque où vous voyez une bouquetière est en train de vendre quelques bouquets, non loin d'un homme qui, avec sa longue pipe, est en train de fumer une clope, si vous me permettez cette expression triviale. Bref, Vernet chope au passage les petits instants de la vie qui nous favorisent cette vision pittoresque du site qu'il nous propose. C'est en 1756-1757 que Vernet va représenter cette vue de Sète. Il y aura d'ailleurs là exactement le même problème que pour Bandol. Sète est alors une cité qui n'est pas trop importante. Alors Vernet décide de réaliser cette vue de Sète depuis la mer, mais cela, ça avait déjà été fait. Alors, j'allais dire, les choses avec Marigny étant calmées, Vernet va donc être tout à fait autorisé à réaliser cette vue, non pas depuis la terre, mais depuis la mer. Par contre, ce qui va passer un peu plus difficilement, c'est que Vernet veut montrer Sète sous la tempête, n'est-ce pas ? Il veut donner à cette vue de Sète une allure, je dirais, dynamique. On a vu que Vernet était un peintre parfois tempétueux qui aimait donner à ses tableaux un aspect, j'allais dire, une ambiance parfois très remuante. C'est le cas pour ce bord de Sète. Là aussi, à nouveau, Marigny et ses collaborateurs ne seront pas très d'accord, a priori. Ils ont demandé à Vernet de faire des portraits des ports de France. On a accepté que parfois, ils se placent dans la mer plutôt que dans la terre. Très bien. Mais de là à donner un aspect dramatique, j'allais dire trop spectaculaire au port, il y a un pas. Et à nouveau, on va voir que des négociations auront lieu entre Vernet, Marigny et ses collaborateurs pour que ceux-ci acceptent finalement de laisser Vernet réaliser le port de Sète, non pas par temps normal, mais par temps de tempête. Ici, à vrai dire, Vernet gagne finalement la partie. Ce qu'il veut dire à Marigny et ses collaborateurs qu'il y a très souvent des tempêtes du côté de Sète, n'est-ce pas? Et que montrant une tempête, c'est une manière de montrer la couleur locale de Sète. À vrai dire, Sète n'est peut-être pas un lieu où il y a plus de tempêtes qu'ailleurs. Enfin, Marigny n'étant jamais sans doute allé à Sète, Vernet pouvait jouer cette carte sans trop de risques. En tout cas, vous voyez ici comment Vernet tire un peu la couverture à lui. Là, c'est peut-être de faire toujours un peu la même chose. Il décide décidément de mouvementer cette scène. Et d'ailleurs, là aussi, le tableau sera finalement extrêmement bien accueilli à Paris. Vernet, une fois de plus, a gagné. Notez d'ailleurs que si Vernet réalise ses vues des ports de France, ça n'empêche pas parfois de réaliser des vues autres. Par exemple, cette grande vue que vous voyez d'Avignon, qui vient d'être acquise il y a un an par le musée du Louvre, pour être d'ailleurs déposée sans doute au musée Calvet d'Avignon, a été réalisée dans cette période. Donc vous voyez que Joseph Vernet, qui est lui-même avignonnais, réalise parallèlement à la commande royale d'autres grands ports, enfin grandes vues panoramiques de ville, comme cette très belle vue d'Avignon que vous voyez là, et qui, bien entendu, résonne d'une manière particulière à cet Avignonnais qu'est Vernet lui-même. Alors, après avoir écumé les ports de la Méditerranée, c'est au tour des ports de l'Atlantique, et bien entendu de Bordeaux. À nouveau, Vernet va consacrer deux vues à Bordeaux, qui est après tout un très grand port, et en 1757, avec femme et enfant à nouveau, il déménage et va s'installer à Bordeaux pour quelque temps. Vous voyez que Vernet a beaucoup bougé dans cette opération. Voilà que Vernet nous représente ici une vue du port de Bordeaux prise du côté des Salinières. Et vous remarquez sur la gauche, n'est-ce pas, les façades des bâtiments qui donnent sur le port. Façades d'ailleurs toutes récentes. Je vous rappelle qu'en ce milieu du XVIIIe siècle, Bordeaux est une ville neuve, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a fait récemment de grands travaux à Bordeaux. C'est ce qui fait l'intérêt et le charme de Bordeaux aujourd'hui. Hein. C'est un urbanisme du XVIIIe extraordinaire, Bordeaux. Et vous devinez d'ailleurs là, non seulement les quais, n'est-ce pas, avec ces belles façades du 18e, mais ici la place tout en grillé, n'est-ce pas, et ici ces deux fameux bâtiments, la douane et la bourse, qui campent la place royale, n'est-ce pas, de Bordeaux, et qui sont en fait des constructions récentes à l'époque. Alors, à nouveau, Vernet nous aligne là des bateaux qu'il a tout à fait étudiés, des personnages qui vaquent à leurs occupations, et bien entendu, il réalise une deuxième vue, qui est, comme à son habitude, une vue du port de Bordeaux, mais exactement de l'autre côté, depuis le château Trempette. Il y a un instant, nous étions, n'est-ce pas, en gros, par ici, et nous voilà exactement à l'autre bout, n'est-ce pas? Vous voyez comment, j'allais presque dire qu'il a un côté encyclopédique, n'est-ce pas, Vernet? Comment Vernet quadrille ses vues pour nous montrer véritablement, de manière totale, la ville en question. Et ce qui est intéressant, c'est que Vernet va également nous montrer dans ce tableau, où il y a des trouvailles amusantes, hein, comme ce personnage debout à contre-jour sur le port, mais également le petit groupe que vous voyez ici, au premier plan à droite, et que vous retrouvez ici. Ce petit groupe est intéressant parce que, d'abord, il se trouve non loin de cet autre petit groupe très pittoresque et très 18e. Vous voyez un abbé qui est en train de discuter avec deux jeunes et belles dames, n'est-ce pas? On voit bien que les 18e est cette période très libre où ce genre de scène ne choque plus grand monde. Mais au premier plan, celui que vous voyez là, un peu fort, de bedaine, si j'ose dire, est un personnage qui joue un grand rôle dans le Bordeaux du temps, parce que c'est celui qui a présidé à la reconstruction de Bordeaux. C'est monsieur de Tourny, qui est l'ex-intendant d'Aquitaine, qui bientôt d'ailleurs sera remplacé par son fils, qui est également ici représenté, et c'est Tourny qui a, n'est-ce pas, commandé, qui a suivi tous les travaux qui ont permis de faire de Bordeaux cette ville nouvelle, moderne, que Vernet est chargé de portraiturer. Vous voyez comment, décidément, Vernet aime bien cette attitude d'intégrer des réalités très factuelles dans les créations qui sont les siennes. Et je vous montre là un zoom sur cette place royale. Vous remarquez à nouveau les deux pavillons dont je vous parlais, la douane et la bourse. Ici même, la statue de Louis XV, érigée au centre de la place. Et puis les grilles qui entourent la place en question. Vous voyez qu'il y a une précision jusque dans les détails d'architecture qui font vraiment de cet ensemble des tableaux tout à fait importants pour étudier l'histoire même des villes. Bayonne sera également un port que notre artiste va quadriller, et de la même manière, il lui consacre deux vues. Voilà la première, une vue de Bayonne prise à mi-côte depuis le glacis de la citadelle, et dans un instant, nous irons absolument en face pour voir la citadelle depuis la ville de Bayonne. Toujours la même idée, de quadriller les vues. Alors, je n'insisterai pas, n'est-ce pas? Les remarques que je viens de faire valent toujours. On voit comment ici, il s'intéresse à la géographie locale, aux activités, avec cette série d'entrepôts au premier plan. Hein. Vernet, vraiment, n'enjolive pas ses vues. Il montre des activités qui s'y développent. On nous montre également vraiment la cité telle qu'elle existe, avec en particulier la Nive qui ici passe et sépare la ville en deux, et les différents quartiers qui sont ceux de la cité. Et dans cette deuxième vue, nous étions là il y a un instant, vous connaissez les entrepôts au-dessus desquels nous étions, nous voilà exactement en face, et à nouveau, n'est-ce pas, Vernet nous invite pour nous montrer aussi bien là la réparation d'un navire, hein, que ses activités typiques de la ville de Bayonne. On a à Bayonne notamment types de bateliers tout à fait particuliers, avec des rames en particulier qui n'existent que là, et que notre artiste se plaît à portraiturer. Voilà un détail de cette vue deuxième de Bayonne qui nous montre bien la volonté ethnographique et artisanale que Vernet souhaite professer dans ses vues. Nous terminons petit à petit avec les trois dernières vues réalisées par Vernet dans ses ports de France, avec cette vue du port de La Rochelle. Vernet va donc, comme vous l'imaginez, à nouveau déménager avec femme et enfant. Vous voyez que ça n'est pas une sinécure d'avoir une commande royale, hein. Il faut beaucoup bouger. La mobilité, elle n'est pas que de notre temps, n'est-ce pas? Vernet n'arrête pas de bouger. La chose commence à le fatiguer un peu, d'ailleurs. Notons-le. En tout cas, ça n'empêche pas, en 1762, de produire ce tableau, cette vue de La Rochelle, vu où, à nouveau, Vernet nous représente le port, avec les deux fameuses tours qui ferment toujours l'entrée du port. Vernet va d'ailleurs, là tout de même, avoir quelques licences avec la réalité. Vous voyez qu'il nous montre ici quelques grands bâtiments, en particulier ce bâtiment que vous voyez là, ou bien celui que vous devinez à droite. Et ça, c'est un petit mensonge, parce qu'on va dire, à cette époque, le port de La Rochelle est très ensablé, de grands bâtiments comme ça n'entrent pas dans le port, ils restent à l'entrée du port, mais pour montrer en un tableau la totalité des activités du port, Vernet a fait accepter l'idée qu'il mettrait ces tableaux dans le port pour permettre quand même de montrer toute l'activité réelle du port. Il y a là, vous le voyez, parfois des petites entorses, mais douces à la réalité. Et puis, puisque La Rochelle est un lieu où, par exemple, le bois joue une importance très grande, parce que La Rochelle est également un lieu où on construit des bateaux, vous avez là, par exemple, des tas de bois qui sont bien rangés, n'est-ce pas, et montrés. Vous voyez que les choses les plus triviales sont portraiturées par notre artiste. D'un peu plus près, cette vue de Rochefort, avec aussi une volonté de s'intéresser à la couleur locale, ethnographique. Vous avez là au premier plan des jeunes femmes avec la coiffe locale, n'est-ce pas ? Il y a vraiment du localisme, l'idée de la couleur locale, de l'ethnographie, est une affaire qui intéresse notre artiste et qui, de toute façon, fait partie de la commande. L'avant-dernier tableau que nous allons voir est cette vue du port de Rochefort depuis le magasin des colonies. Alors vous savez que Rochefort est un lieu tout à fait intéressant, encore très bien conservé aujourd'hui. Vous voyez bien dans ce tableau que, comme à son habitude, Vernet nous représente les activités du port. Vous devinez, n'est-ce pas, jusque dans le lointain, que l'on est en train ici d'équiper, de réparer des navires. Et vous remarquez évidemment à gauche la fameuse grande corderie qui existe toujours, qui est très longue et très grande, tout simplement parce que à l'intérieur de ce bâtiment, remarquable, très bien conservé, c'est là que l'on faisait les cordes, puisque les cordes sont longues, et qu'on faisait ces cordes de A à Z, il fallait évidemment un grand bâtiment pour allonger en quelque sorte les cordes dans le bâtiment, la partie centrale, et les pavillons de côté, étant réservés à des questions techniques, notamment pour le bain des cordes elles-mêmes. Décidément, Vernet, une fois de plus, nous emmène dans la réalité des choses. Et vous voyez que, par exemple, au-delà des activités de réparation ou de construction des navires, vous avez là, sur le port, des marmites en métal ou en terre cuite, n'est-ce pas, qui sont accumulées, parce que les activités commerciales, dans leur caractère, encore une fois, très quotidien et domestique, sont portraiturées par le peintre. Et vous voyez là, d'un petit peu plus près, la fameuse grande corderie dont je vous ai déjà dit un mot. Dieppe sera le dernier tableau réalisé par Vernet, car, notons-le, Vernet commence à se fatiguer un peu. Réalisé 15 ports de France, les tableaux, je vous le rappelle, sont de grandes dimensions, presque 3 mètres de large, et plus d'un mètre 50 de haut, c'est énorme. Ces tableaux sont pas de petits tableaux, et comme vous l'avez vu, Vernet va dans un niveau de précision qui est tel qu'on a là vraiment des tableaux qui demandent un savoir-faire remarquable, long, et Joseph Vernet, en clair, et sa famille sans doute aussi, on a un peu assez de déménager tous les 2-3 ans pour réaliser de nouveaux tableaux. Dieppe est le dernier tableau qu'il réalisera. Autrement dit, il ne réalisera que 15 tableaux sur la commande des 20. Mais personne ne lui en voudra. D'ailleurs, le port de Rochefort, il le terminera à Paris. Et le port de Dieppe que vous voyez ici, il le réalisera depuis Paris. En effet, la famille Vernet ne s'est pas installée à Dieppe. Ils sont rentrés de Rochefort à Paris, ils sont installés à Paris. Et c'est de Paris que Rochefort va faire des allées et venues à Dieppe pour réaliser le tableau qu'il peindra à Paris. Donc vous voyez que le dernier tableau, en 1762-65, date de son achèvement, est fait dans une ambiance autre. Alors le port de Dieppe, comme d'habitude, n'est-ce pas, correspond bien à ce que Vernet sait faire, au niveau de l'étude de l'architecture, des bâtiments, de la couleur locale. D'ailleurs, vous voyez, c'est vu du premier plan, où on voit aussi bien quelques repas, n'est-ce pas, qui est ici organisé sur le port, mais aussi la pêche, avec notamment une sorte de grand espadon qui repose au premier plan, et les pêcheurs qui amènent les poissons fraîchement pris dans leurs filets. Si d'ailleurs Joseph Vernet revient de Rochefort pour aller à Paris, Et pour réaliser le port de Dieppe, dernier des 15 tableaux, 5 autres ne sont encore une fois jamais réalisés par lui. C'est pas seulement d'ailleurs parce qu'il en a un peu assez déménagé tout le temps et parce que ces ports de France commencent quand même à lasser un artiste qui aura consacré beaucoup de sa vie à les réaliser. C'est aussi parce que le roi et son ministre de la Culture, son directeur des bâtiments, lui demandent bien d'autres commandes. Par exemple, on va demander pour Versailles une série de dessus de porte à Joseph Vernet, que vous voyez ici, dessus de porte qui correspondent bien d'ailleurs au travail que fait Vernet. Vous le voyez, nous avons le matin ou la pêche, le midi ou la tempête, le soir le crépuscule, la nuit ou le clair de lune. Voilà un ensemble qui nous rappelle ce que Vernet avait fait à Rome pour notre lord irlandais de tout à l'heure, hein. Et puisque le roi lui-même commande à Vernet ses dessus de porte pour Versailles, c'est le roi lui-même qui interrompt Vernet dans sa réalisation des ports de France. Mais Vernet a un tel succès à l'époque que le roi ferme les yeux sur la fin de la commande pour commander à Vernet d'autres tableaux encore. Vernet, évidemment, entre-temps, et vous voyez ici que le jeune homme du départ un peu mûri, pourrait-on dire, du fait des travaux qui sont les siens. Vernet a acquis évidemment une très grande notoriété, c'est désormais un peintre célèbre, établi, et vous voyez ici, n'est-ce pas, le peintre, non sans un certain orgueil, qui pose devant Louis-Michel Vandelot, un des artistes les plus en vue du temps. Alors, en guise de conclusion, essayons de voir ce que Vernet réalisera après cette série des ports de France. Nous avons là un artiste au sommet de sa célébrité. Quel sera l'avenir de Vernet? Eh bien, l'avenir de Vernet va passer d'abord par la réalisation de toute une série de vues un peu dans la lignée des ports de France. Voilà, par exemple, un très beau tableau de la Gemälde de Galerie de Berlin qui montre une vue de Nogent-sur-Seine. N'allez pas à Nogent, vous ne verrez plus cela aujourd'hui. Bref, ce que vous avez là, c'est un peu un port de France né ramené à une petite cité de la région parisienne. Voyez que cette phase des ports va donner à Vernet l'idée de réaliser, de poursuivre ces sortes de grands panoramas montrant des site avec cette réalité et ce pittoresque qu'il a montré dans les ports. Même chose avec ce très important tableau, la construction d'un grand chemin qui nous montre Vernet s'intéressé, cette fois non plus à des rivages, mais à l'intérieur du pays. Les chemins, ils sont très en cours de réalisation dans la France du temps. Eh bien, cette réalité économique de la France, Vernet a su la montrer pour les ports. Il la montre, par exemple, pour cette autre activité. Ça n'empêchera pas Vernet de poursuivre dans la veine dont nous avons vu qu'il l'avait déjà largement exploité en Italie, celle des paysages complètement imaginés. Le tableau que vous voyez ici, qui dans le fond s'intéresse un peu et évoque Tivoli, hein, vous rappelez de cette cité dont on a parlé tout à l'heure, il sait s'en inspirer ici, mais pour brosser un paysage qui n'a rien à voir avec la réalité et qu'il sait, bien entendu, laisser envahir par quelques baigneuses un peu dénudées. Il réalise également, volontiers, de ces vues portuaires totalement imaginaires. Ce que vous voyez là ne correspond à aucune réalité. Et il peuple, bien entendu, ces vues-là, à la fois de belles femmes nobles, n'est-ce pas, bien habillées, mais également de ces personnages, je sais pas pourquoi il y a toujours un petit truc qui vient, mais tant pis, de ces personnages orientaux qui sont là pour permettre de donner à ces vues un pittoresque exotique qu'il a su observer, nous l'avons vu, par exemple, en brossant naguère le port de Marseille. Ça n'empêche pas non plus Vernet de poursuivre dans son attitude qui est celle de l'ambiance qu'il essaie de donner à ses vues. On a vu tout le temps, n'est-ce pas, à quel point Vernet, c'était vrai dans ses ensembles de 3 ou de 2 tableaux où il présente un port à midi, le matin, le soir, etc., où il aime s'intéresser aux brumes, à la pluie, au brouillard, au soleil, à la tempête. Eh bien, ces idées de l'ambiance, chose d'ailleurs qui passionnera quelqu'un comme Diderot, hein, Diderot qui est passionné par le sentiment humain dans les tableaux, d'où son goût pour Greuze, est passionné aussi par le sentiment que Vernet sait donner au paysage, ce qui fait que Vernet, dans des tableaux comme ça totalement inventés, n'est-ce pas, exploite cette idée de la tempête qui vient donner au paysage, j'allais dire, un supplément d'âme. Et on le voit encore dans des tableaux comme ça, où là aussi la montagne est envahie par une sorte de tempête et d'orage terrible. Mais vous voyez cependant que Vernet, de plus en plus vers la fin de sa vie, on va vers des tableaux qui de moins en moins présentent la réalité et qui de plus en plus exploitent, j'allais dire, son imagination de paysagiste. On le voit d'ailleurs dans beaucoup d'autres tableaux de l'époque. Alors, pour achever tout à fait, notons que Vernet saura, je dirais, chez d'autres peintres, susciter des vocations. On remarque que Vernet, qui est cet artiste qui, en cette fin du XVIIIe, a une énorme notoriété, va être suivi par toute une série d'artistes plus jeunes que lui qui, derrière lui, vont continuer son œuvre avec une stylistique très proche. Voilà, par exemple, un Alsacien, Jacques de Lutterbourg, qui va, en cette fin du XVIIIe siècle, poursuivre dans la veine catastrophique. Hein, Lutterbourg va multiplier les naufrages, comme celui que vous voyez là. Un autre, Pierre-Jacques Voller, qui d'ailleurs a passé une partie de sa vie en Italie, il est mort à Naples, va lui s'intéresser beaucoup au Vésuve et aux éruptions du Vésuve. Vous en voyez ici un exemple. Vous voyez que Vernet va avoir derrière lui toute une série d'artistes, Lutterbourg, Voller, qui vont exploiter chez Vernet, mais en poussant encore plus loin l'affaire, la dimension dramatique des paysages qui se rebellent en quelque sorte. Hein. Mais il y a également des artistes qui retiendront chez Vernet la douceur, le calme, la sérénité qu'il y a chez lui. Par exemple, Pierre-Henri de Valenciennes, dans un tableau tel que vous voyez ici, prend chez Vernet ce que Vernet avait d'ailleurs lui-même retenu des grands artistes classiques, comme Duguay ou Claude Gelée dit le Lorrain. Hein. Et vous voyez comment ici Valenciennes lui tire Vernet, dans ses propres travaux, vers une sorte de sérénité dans ses paysages complètement réinventés, tels que Vernet a su le faire naguère. Notez que jusqu'aux Anglais, on aura ce regard sur Vernet. Par exemple, Joseph Wright of Derby, qui est un des grands paysagistes anglais du XVIIIe siècle, avec des tableaux comme celui-ci, cette vue du lac de Nemi, a certainement beaucoup regardé Vernet et a donné justement un tableau tel que celui-ci, non pas simplement la réalité du paysage qu'il observe, mais cette ambiance de soleil couchant, cette atmosphère que Vernet a su dans tous ses tableaux, n'est-ce pas, rendre, et que Derby ici reprend en quelque sorte, pour donner à son tableau une sorte de supplément. Vraiment, Vernet devient, et Madame Vigée-Lebrun, quand elle le portraiture en 1778, on est bien consciente, devient un personnage qui est un peu incontournable dans l'Europe du temps. Je vous remercie.
Merci.